Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Je vous parle d'un monde qui n'existe pas.
On est bien entre curieux.
Un monde où les frontières ne diviseraient pas.
Sans papier des clandestins, des réfugiés de toutes les guerres.
Jusqu'à 22h.
Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est facile de tendre la main.
On voyage en musique avec le Belge Geoffroy, Yannick Noah et l'Ivoirien Tikenia, parce qu'on va vous raconter des histoires de frontières dans la curiosité. Dans quelques heures, on saura avec la nuit américaine animée par George Lang et les envoyés spéciaux de RTL aux États-Unis qui de Donald Trump ou de Hillary Clinton deviendra le 45e président ou la 45e présidente, enfin la première présidente. Si Trump l'emporte, en tout cas, il lancera la construction d'un mur entre son pays et le Mexique, une frontière en dur pour freiner l'immigration. Bonsoir Bruno Tertrais.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, heureux de vous retrouver dans notre studio de la curiosité. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de géopolitique. Des murs comme celui promis par Trump, il y en a déjà, il en existe.
Oui, il y en a déjà pas mal. Il y en a à peu près une quarantaine aujourd'hui dans le monde. Alors attention, c'est pas forcément des murs, du béton. C'est, en général, c'est des barrières. Ça peut être juste des barbelés, ouais. Mais des frontières vraiment matérialisées par des barrières qui sont destinées tout simplement à empêcher les gens de rentrer. On a calculé que c'était à peu près entre 5 et 15% du total des tracés de frontières dans le monde. Vous voyez, ça reste quand même une petite minorité. On en parle beaucoup, mais la majorité des frontières, c'est juste des bornes, tout simplement.
Et ça marche? Ça freine le passage des migrants?
Alors, ça ralentit. Alors, pour les migrants, ça ralentit, ça canalise, mais le problème, c'est que ça force aussi les migrants, en tout cas les plus motivés d'entre eux, à prendre des routes plus dangereuses. Hein. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui autant de morts en Méditerranée, parce que la route terrestre, celle de la Turquie et des Balkans, elle devient plus difficile, et du coup, ils prennent plus de risques, en tout cas les plus motivés prennent plus de risques et ils passent par la mer.
Bruno Tertrais, en France aussi, à Calais, on érige un mur anti-intrusion. Où est-il érigé et pourquoi il est construit ?
Alors, on s'est aperçu que aujourd'hui, les migrants, là encore les plus motivés d'entre eux, ils se jettent littéralement sur l'autoroute, souvent de nuit, pour monter dans des camions qui transitent vers l'Angleterre. Donc, ils prennent des risques d'abord pour eux, ensuite pour les camions, et puis tout simplement pour la circulation automobile. C'est extrêmement dangereux. Donc, on a décidé, et ça va se faire, ça se fait en ce moment, de renforcer la sécurité autour, notamment de l'autoroute, de la rocade de Calais, pour éviter que les migrants se jettent sur les camions, littéralement.
Hein. Il est construit avec quel argent ? Ce mur, et il ressemble à quoi, vous le savez ?
Ce sont les... Alors, ça ne sera pas un mur en béton, hein, ça sera une clôture, là encore, une clôture assez haute, comme on voit autour de l'Eurostar. Quand vous prenez l'Eurostar aujourd'hui, vous allez vers Londres, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de clôtures, de clôtures en métal, hein, là encore, pas des vrais murs, pour empêcher les migrants d'essayer de passer. Alors là, c'est de l'argent anglais, tout simplement parce que dans les accords qu'on a avec les Anglais, normalement, c'est bilatéral. Hein, y a des douaniers français et des policiers français en Angleterre, et il y a des douaniers anglais et des officiers anglais en France. Le problème, c'est qu'il y a plus de gens qui ont envie de passer de France en Angleterre que l'inverse. Du coup, dans les accords avec les Anglais, là, c'est les Anglais qui payent.
Bruno Tertrais, vous publiez l'Atlas des frontières aux éditions Les Arènes, livre coécrit avec Delphine Papin. Vous l'avez évoqué, on voit que les frontières sont souvent des cimetières. C'est un phénomène qu'on peut chiffrer et qui s'aggrave ou pas ?
Oui, en tout cas, alors deux données incontestables. Un, les humains sont de plus en plus nombreux sur Terre. Oui. Mais deux, surtout, ils bougent de plus en plus, que ce soit pour le tourisme, pour aller travailler, et pas forcément de manière définitive, mais au moins temporairement, quelques années. Vous savez, l'émigration temporaire, aujourd'hui, c'est plus facile. On reste en contact avec sa famille, avec son téléphone portable, ce qu'on pouvait pas faire. On peut se faire transférer de l'argent facilement. Tout ça, on pouvait pas le faire il y a 30 ans. Hein. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de flux migratoires. Et puis aussi, l'abaissement du coût des transports. L'avion coûte beaucoup moins cher, relativement parlant, que c'était le cas il y a 30 ou 40 ans.
Donc, il y a de plus en plus de candidats à l'immigration et de plus en plus de morts. C'est mécanique.
Oui, c'est presque mécanique, malheureusement, surtout, là encore, dans les zones particulièrement dangereuses comme la Méditerranée, qui est une mer, toute personne qui a essayé de traverser ou réussi à traverser la Méditerranée à la voile le sait, c'est une mer extrêmement dangereuse dans l'imaginaire des Français. C'est les vacances, c'est la mer chaude, etc. Donc c'est extrêmement dangereux.
Elle est
dangereux,
beaucoup plus traîtresse qu'on l'imagine, effectivement.
Exactement. Ouais. Ouais.
Dans votre livre, vous parlez d'1,8 million de personnes entrées illégalement en Europe en 2015. Alors le chiffre de l'immigration illégale, c'est un thème très politique, très polémique aussi. Ce chiffre, comment vous en arrivez à le... à le publier.
Ce chiffre, effectivement, parce qu'il est sensible, moi, je le sors pas de mon chapeau.
Ben oui.
Ce sont les chiffres officiels de l'Union européenne, ils sont publics. Mmh. Hein. Il y a aujourd'hui, il y a eu en 2015, l'année dernière, un doublement du nombre de premières demandes d'asile auprès d'un pays de l'Union européenne. Il y a eu, l'Union européenne a enregistré 1,2 million de demandes d'asile. C'est effectivement énorme. Aujourd'hui, il y en a un peu moins, il y a un petit peu de reflux, mais au 31 décembre de l'année dernière, il y avait encore, je crois, 800 ou 900 000 demandes d'asile en attente.
Et on n'avait pas connu de tel flux de population depuis longtemps ? Depuis quelle époque ?
Ben, en fait, on s'en souvient pas beaucoup, mais depuis en fait, la fin de l'Union soviétique et l'ouverture du bloc de l'Est. Alors, ça n'a pas fait le même choc en Europe, d'abord parce que c'était essentiellement des migrants européens, y compris russes. Il y a eu des flots gigantesques de Russes vers l'Allemagne, par exemple, je crois que c'était 2 millions à l'époque. On se souvient aussi des Albanais vers l'Italie. Là, il y avait littéralement des bateaux, souvent avec des tragédies d'ailleurs, entiers de migrants albanais vers l'Italie. Il y a eu d'autres flux qu'on a un petit peu oubliés aussi, comme les boat people d'Asie du Sud-Est vers l'Europe. On avait des flux de cette ampleur aussi. Mais là, c'est vrai que c'est le caractère soudain et très divers, surtout dans sa composition, du flux de migrants l'année dernière et qui continue encore aujourd'hui, qui a légitimement choqué.
C'est les frontières, ce sont des témoignages de notre histoire, en fait.
Oui, bien sûr, la frontière, c'est toujours un héritage de. C'est comme disait le grand géographe Michel Fouché, c'est du temps inscrit dans de l'espace, parce que la frontière, soit ça résulte d'une guerre, soit tout simplement de relations de bon voisinage. Hein. Vous savez, comme deux paysans vont borner leur champ en disant là c'est chez toi, là c'est chez moi.
Mais ça veut dire que ce sont souvent des cicatrices, les frontières ?
Alors, les cicatrices, ça veut dire qu'il y a une blessure et que donc ça fait mal, mais c'est vrai, très souvent des cicatrices. En Europe, les frontières de l'Europe ont été des frontières sanglantes, on le sait bien. Hein, parfois très pacifique, mais généralement elle résulte plutôt de guerres et d'autres tragédies, bien sûr. Ouais.
Il y a de plus en plus de frontières dans le monde. Il faut dire que depuis 1900, le nombre d'États a été multiplié par 5. On visite ces frontières les plus surprenantes sur RTL. À tout de suite.
Vous écoutez RTL. RTL.
On est bien entre curieux.
Un monde où les frontières ne diviseraient pas.
Sans papier des clandestins, des réfugiés de toutes les guerres.
Jusqu'à 22h.
Mais où vont les êtres humains que l'on reconduit aux frontières?
On aime tellement les mises en onde d'André Facetta qu'on les bis maintenant.
Bis repetita pour André Facetta. On voyage dans la curiosité grâce à notre invité Bruno Tertrais qui publie l'Atlas des frontières. C'est aux éditions Les Arènes. Vous nous avez tout à l'heure dit cette très belle phrase du géographe Michel Fouché, une frontière, c'est du temps inscrit dans l'espace. Ça, c'est une réalité, mais aussi de la poésie. Est-ce qu'il y a un cadre légal, une définition officielle d'une frontière ?
Non, il n'y a pas de définition légale, si vous voulez. La frontière, c'est quoi ? C'est ce qui se passe, l'espace souverain de deux États, là où l'État a le droit de lever l'impôt, de
on a vu qu'il avait beaucoup d'imagination, pour ceux qui nous rejoignent.
C'est pour ça que je mentionnais.
Vous pouvez nous podcaster pour entendre l'imagination fiscale, vous verrez.
La frontière moderne, c'est tout simplement lié à l'émergence de l'État moderne, parce que la frontière dans les temps anciens, c'était différent, c'était des espaces, c'était des murs. Il n'y avait pas comme ça cette division très stricte du monde entre États comme aujourd'hui.
Alors Bruno Tertrais, il y a une définition de la frontière, mais il y a plusieurs types de frontières. On commence avec les naturelles ?
Oui, alors on dit toujours il y a les frontières naturelles, les frontières artificielles, et ce qu'on sous-entend généralement quand on dit ça, c'est que les frontières naturelles c'est bien, et les frontières artificielles c'est pas bien. Sauf qu'on essaye dans l'Atlas des frontières, avec Delphine Papin justement, de démonter un peu cette idée. Alors, c'est quoi une frontière naturelle ? On va dire, ah bah ça passe au fleuve, la chaîne de montagne, sauf que la chaîne de montagne, d'accord, mais à quel endroit ? Les pics les plus hauts, la ligne de partage des eaux, et puis quel pic exactement ? Le fleuve, où est-ce que ça va passer ? La frontière au milieu ? Ah bah non, pas forcément, parce qu'il y a souvent des îles. Donc les îles, elles sont acquises. Vous voyez, ces notions-là, elles ne sont pas si évidentes. Bah, regardez, la Chine et la Russie, par exemple, se sont battues sur une île, sur le fleuve Oussouri, à leur frontière en 1969. Ça a failli déclencher une guerre nucléaire.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'îles entre les deux pays, c'est ça ?
Effectivement.
Ça a mis du temps avant de se départager.
Il y en avait beaucoup, d'une certaine manière. Et puis alors, les frontières dites artificielles, parfois, elles sont paisibles et parfaitement reconnues. Regardez, la frontière la plus paisible du monde, c'est la plus artificielle et la plus longue. C'est la frontière entre les États-Unis et non pas le Mexique. Mexique, mais le Canada, tout simplement. Et elle pose de problème à personne. Donc, si vous voulez, toutes les frontières, de toute façon, sont artificielles. C'est une convention entre deux États qui résulte d'un rapport de force ou bien d'un traité.
Mais ces histoires de frontières fluviales, ça peut créer de drôles de situations.
Ah,
on avait raconté ici même l'histoire du Liberland.
Exactement.
Alors, vous pouvez nous dire où ça se trouve et comment cet État, si j'ose dire, est né?
C'est un micro-état. Le problème, c'est que le Danube a changé son cours, comme ça arrive à beaucoup de fleuves au cours de l'histoire. Bah, le cours du fleuve change un petit peu. Mmh. Et du coup, la Croatie et la Serbie n'arrivent plus à se mettre d'accord. Attendez, là, on est chez moi ou on est chez toi. Et finalement, c'est resté un petit peu en suspens. Et du coup, sur les îlots, sur la rive, si vous voulez, d'un côté de l'autre, il y a des petits malins qui se sont dit, bah, nous, on va créer un petit état indépendant sur ces terres contestées, microscopiques. Et on va appeler ça le Liberland.
Et ils ont planté des poivrons, donc ça leur appartient. Exactement. Parce que qui plante, possède.
Exactement. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de zones blanches dans le monde.
Oui, c'est ce que j'avais demandé.
Non, aujourd'hui.
Il y a quoi d'autre
comme... Vous savez, le grand écrivain Paul Valéry disait en 1945 une phrase célèbre, le temps du monde fini commence. Bah, aujourd'hui, on y est. C'est-à-dire que sur la planète, il n'y a plus de ce qu'on appelait les terra nulli, les terres qui ne sont à personne, à part l'Antarctique. Qui n'est à personne, parce que le camembert que vous voyez avec l'Antarctique, avec chacun qui a sa petite tranche, et qui, ce sont des revendications, mais l'Antarctique n'est à personne. Il reste juste une petite terra nullius, une terre qui n'appartient à personne, un petit triangle à la frontière entre l'Égypte et le Soudan. Ça, c'est un héritage compliqué de la colonisation britannique, mais sinon, l'espace entier de la planète est divisé en zones souveraines.
Il ne va pas y avoir de pétrole en dessous, sinon il appartiendra déjà à quelqu'un, c'est ça?
Oui, sauf qu'en général, quand il y a des pétroles en dessous, effectivement, c'est générateur de conflits.
Ben oui. Quand on voit la carte de l'Afrique, par exemple, moi je me pose toujours la question de comment les frontières ont été tracées, inventées. Elles sont pratiquement partout rectilignes.
Ah non, pas partout.
Non, pratiquement, j'ai dit.
C'est l'impression générale qu'on a quand on regarde la carte, quand même.
J'ai dit pratiquement.
Et oui, mais alors, en général, quand elles sont rectilignes, c'est tout simplement parce que c'était des zones que. Regardez, il faut distinguer deux types de frontières. Mmh. Il y a d'abord au Sahara, alors effectivement, elles sont toutes quasiment rectilignes. Mais pourquoi? Mais parce qu'elles sont forcément arbitraires. Là, il faut bien. Là, c'est comme l'Antarctique, c'est tout droit parce qu'on passe au milieu du désert. Il n'y a pas grand-chose, ce sont simplement des espaces de passage. D'ailleurs, ces frontières ne veulent pas dire grand-chose pour les nomades. Mais si vous voulez, c'est un peu normal qu'elles soient rectilignes. En revanche, les frontières de l'Afrique subsaharienne, bah non seulement la plupart du temps elles sont pas rectilignes, mais en général, elles sont plutôt bien acceptées aujourd'hui par les pays africains eux-mêmes, même si elles viennent de la colonisation.
Les frontières qui jouent parfois de drôles de tours. Tiens, par exemple, au milieu du Pacifique, sur les îles Kiribati, on peut être à la fois mardi et jeudi.
Ça serait compliqué pour animer une émission de radio.
Vous n'avez rien compris, mais c'est normal, on vous explique juste après les infos.
Vous écoutez RTL.
La base cubaine de Guantanamo aurait dû fermer, c'est ce qu'avait promis le président américain Barack Obama. Mais la prison la plus controversée au monde, située en plein paradis tropical, est toujours en fonctionnement.
La curiosité est un vilain défaut.
Un mur, créé en 2006 pour stopper l'immigration mexicaine.
We recognize and respect the right to build a physical barrier on any of its borders to stop the illegal movement of people.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On se passionne pour les frontières sur RTL. Ce qui nous en a donné l'idée, c'est l'élection américaine, dont le résultat sera connu dans quelques heures. Vous pourrez d'ailleurs suivre Georges Lang et nos correspondants aux États-Unis dans la nuit américaine. C'est juste après RTL, grand soir. Et puis ça durera ensuite avec la matinale. Ça fait 10 heures d'antenne consacrée à l'élection américaine. Cette élection qui va peut-être offrir le pouvoir à Donald Trump, l'homme qui veut, on vient de l'entendre, construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Bruno Tertrais, je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales. Qu'est-ce qu'il dit des frontières, tiens, ce Donald Trump?
Il a une phrase très simple et très populaire, hein, et qu'il aurait pu reprendre en Europe aussi, c'est « les gens veulent voir des frontières ». C'est simple, c'est efficace, et d'ailleurs, c'est vrai. Alors,
ça nous rassure?
Non, ce qui ne me rassure pas, c'est qu'il a des idées complètement farfelues.
Enfin, ça rassure l'opinion, c'était
oui,
ça le sens.
Oui, parce que ça
question.
Veut dire, voilà un candidat qui est en phase avec ce que nous pensons.
Oui.
En revanche, là où il débloque vraiment complètement, c'est qu'il dit que le fameux mur, qui existe déjà en partie, hein, le mur, il a commencé à être construit en 2006. Il y a déjà un mur sur à peu près 10-20% du tracé de la frontière. Mais il dit qu'on va le faire tout au long de la frontière et que, devinez quoi, c'est les Mexicains qui vont payer. Évidemment, les Mexicains ne sont pas du tout d'accord. Mais là où il se trompe, Donald, comme souvent d'ailleurs, malheureusement, c'est qu'il y a autant de flux vers le sud que vers le nord dans cette frontière qui est aujourd'hui la plus traversée au monde. Il y a beaucoup de Mexicains qui reviennent aujourd'hui au pays. Donc c'est vraiment un peu jouer avec les peurs de l'électorat. D'ailleurs, si depuis ce matin l'électorat hispanique se mobilise en très très grand nombre, des nombres records apparemment, c'est probablement pas pour Donald Trump.
Bruno Tertré, vous publiez avec Delphine Papin l'Atlas des frontières, c'est aux éditions Les Arènes. Alors on y trouve quelques frontières insolites, par exemple la ligne de changement de date. Où se trouve-t-elle et comment marche-t-elle ?
Elle est dans le Pacifique, parce que c'est là qu'il y a le moins, tout simplement, parce que c'est là qu'on ne va pas passer au milieu des pays, les faire passer du lundi au mardi, au mercredi. Et puis surtout, c'est l'opposé du méridien de Greenwich. Alors, si vous êtes aux îles Kiribati, au milieu du Pacifique, ça donne le tournis, hein, parce que vous pouvez passer en quelques heures, vous pouvez passer du mercredi minuit et demi, avec quelques kilomètres, vous passez au lundi 11h30, et puis hop, vous reprenez un petit hydravion, et quelques dizaines de kilomètres, vous allez passer au mardi 11h30, tout simplement, parce que cette ligne de changement de date, elle n'est pas droite, tout simplement, et elle passe au milieu des îles, ça ne rend pas la vie facile. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont jamais passé, hein, moi je l'ai passé, en avion, pas en bateau, c'est moins chic, mais anecdote, j'avais dit à ma copine à l'époque, je t'appelle quand j'arrive en Australie demain, et morte d'inquiétude, elle me laisse un message à mon arrivée à Sydney, mais tu m'as pas appelé, en fait on était après-demain, et c'est complètement fou la ligne de changement de date. Moi j'ai toujours pas compris comment ça marche.
Mais oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que c'est quoi, c'est le système des fuseaux horaires, et il y a un moment où il faut décréter qu'on change de jour, c'est ça?
Et exactement, vous êtes à la même heure mais le lendemain, parce que sinon vous feriez le tour du monde et vous voyageriez dans le temps.
Mais ça doit poser des problèmes énormes à ces habitants de l'île de Kiribati. Oui, c'est-à-dire quand ils se donnent rendez-vous pour le travail ou c'est impossible.
Bah oui, effectivement, il ne faut pas se gourer dans ces rendez-vous professionnels ou personnels.
Bon, ils ont plusieurs montres, peut-être.
Oui, mais c'est la classe, ils voyagent dans le temps. Attends, c'est quand même pas mal. Les subtilités de la diplomatie, Bruno Tertré, font parfois surgir de drôles de frontières. Alors, on se projette dans le temps. Imaginons, on est le 17 juillet 1945, dans un très bel hôtel, le Claridge, à Londres, suite 212. Qu'est-ce qui se passe avec cette suite ?
Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une naissance. La naissance de l'héritier du trône de Yougoslavie. Mmh. Et là, la couronne britannique a décidé que ça allait être provisoirement, pour quelques heures, territoire yougoslave. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'héritier soit né en territoire yougoslave. Donc la suite 212 du Claridge de Londres a été, pour quelques heures, décrétée territoire yougoslave. Mais attention, hein, vous savez, les ambassades, on croit toujours qu'on passe dans un autre pays quand on va chercher un visa. Par exemple, pour les États-Unis, on croit qu'on passe en territoire américain. Pas du tout.
C'est
en
pas fait, extraterritorial.
Et non, malheureusement, d'accord. Là, désolé de ruiner un petit peu cette idée, mais c'est pas extra. Il y a des privilèges d'extraterritorialité. Autrement dit, la police française ne peut pas rentrer comme ça. Ouais. Mais l'ambassade des États-Unis ou celle de Bolivie ou celle de Russie d'ailleurs, ça reste territoire français.
Mais ils sont propriétaires du bâtiment.
Le pays, voilà, absolument, parfois du terrain, mais ouais, ça reste le territoire français.
Guantanamo, c'est quoi, Guantanamo... Est-ce que c'est un territoire américain ?
Non, Guantanamo, c'est territoire cubain aussi, mais il y a un bail perpétuel qui a été octroyé aux États-Unis à l'époque où les deux pays avaient des relations différentes. C'est ce qui a permis aux États-Unis de dire, en fait, on est en territoire cubain, donc le droit américain ne s'applique pas.
Est-ce qu'il y a des frontières ? Allez-y Thomas, je sens que votre question vous brûle les lèvres. Vous avez remué votre nez.
Oui, ben ça c'est mon côté, ma sorcière bien-aimée. En fait, en discutant tout à l'heure pendant le flash de Julien Cellier, on se posait la question de Google Earth. Et du fait qu'en fonction du pays, les frontières peuvent changer.
Ah oui, ça c'est formidable. Si vous ouvrez Google Earth à Delhi, ça vous arrive pas tous les jours, Thomas Hugues, j'imagine, mais enfin en tout cas, moi ça m'est arrivé.
J'ai jamais allé en Inde.
Moi je l'ai fait. Ouais. Eh bien, vous voyez que la frontière entre l'Inde et la Chine, ça correspond exactement à la définition indienne. Et puis si vous ouvrez Google Earth à Pékin, par exemple, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que vous allez voir que Google s'adapte, parce qu'il s'adapte aux clients, hein, Google. Et ben, Google, tout simplement, va montrer le territoire chinois tel qu'il est revendiqué officiellement par les Chinois.
Alors, il nous reste beaucoup de frontières à découvrir. Par exemple, la plus compliquée du monde. Ouvrez bien vos oreilles. Un morceau d'Inde dans le Bangladesh, lui-même dans l'Inde, le tout dans le Bangladesh.
Bon, enfin, c'est une contre-enclave, ça.
Facile.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce soir sur RTL, on est curieux de découvrir les frontières les plus insolites de notre planète avec Bruno Tertrais, spécialiste de géopolitique, qui publie l'Atlas des frontières. C'est aux éditions Les Arènes. Grâce à vous, on voyage et c'est passionnant. Direction, comme l'a si joliment dit, direction une terre de confusion. C'est la région de Kouch-Béar. Oui. Oui,
moi,
mais c'était joliment. Vous auriez pu très mal traduire, Thomas.
C'est vrai.
On n'est pas à l'abri de ça.
Je suis sorti.
Où se situe cette région de Kouch-Béar et quelle est son histoire ?
Alors, l'histoire est compliquée. C'est la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. C'est probablement la frontière la plus compliquée du monde. Il y a des petites miettes de territoire bangladais en Inde et vice-versa. Et puis, il y a des miettes de territoire bangladais à l'intérieur du territoire indien qui sont elles-mêmes en territoire bangladais, etc.
Pourquoi ? Parce que c'était une zone de conflit pendant longtemps.
Ça a été une zone de conflit. Et puis, après, il y a beaucoup de légendes. On dit que les souverains, le Maharaja, se les jouaient entre eux aux échecs. Enfin, on ne sait pas trop exactement d'où ça provient.
Et en tout cas, c'est là qu'on trouvait une contre-enclave. C'est
voilà,
quoi, ça ?
Alors il y a un monsieur très malheureux qui est un fermier, qui vit dans un morceau d'Inde, qui est au milieu du Bangladesh, qui est au milieu de l'Inde, qui est au milieu du Bangladesh. Il a une vie épouvantable. Oui. Heureusement, on a commencé à régler, enfin ça faisait des siècles, on a commencé à régler l'année dernière ces problèmes-là. Il y avait 160 enclaves, il n'y en a plus qu'une trentaine maintenant. Mais franchement, c'est très important pour les paysans indiens et bangladais qui ne pouvaient littéralement rien faire sans avoir un visa ou un passeport pour l'autre pays.
Bon, grâce à vous, j'ai appris un mot, une contre-enclave, ce n'est pas une insulte du capitaine voilà. Haddock dans l'un des Tintins. On pourrait regarder ça, vous voyez, un peu de haut, du haut de notre Europe, soi-disant plus évoluée, mais en fait, si on va tout près de chez nous, à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, bah on trouve un peu la même chose.
Et oui, entre la Belgique et les Pays-Bas, on a aussi notre Kouch-Béar, entre guillemets, ouais. Sauf qu'on est dans l'espace Schengen, et donc c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas des murs et des barrières partout, et effectivement, il y a des enclaves belges et néerlandaises, avec, là aussi, c'est un héritage de l'histoire, et puis il y a tout un tas d'histoires formidables, avec les bars qui sont sur la frontière.
Il y a une ville qui s'appelle Barle.
Ça s'appelle Barle, effectivement.
Barle, et donc, il y a des maisons, pour savoir de quelle nationalité on est, il faut regarder quoi, où est la
porte d'entrée. Vous regardez la porte d'entrée, tout simplement, et si vous bougez la porte d'entrée, vous changez de pays. Et alors, le petit malin qui a deux portes d'entrée sur sa maison, eh ben, il a une entrée sur chaque pays, sa maison est
de l'autre côté. C'est sympa pour la déco. On peut faire deux ambiances, une frontière.
Heureusement, c'est la Belgique et les Pays-Bas. Donc ça se passe.
Et c'est pratique pour les bars aussi.
Alors oui, pour les bars, parce qu'il y a une époque où il y avait des bars qui étaient littéralement sur la frontière. Il y a une époque où il n'y avait pas la même heure de fermeture du côté belge et du côté néerlandais. Alors du coup, les types, qu'est-ce qu'ils prenaient ? Ils prenaient les tables des bars et littéralement, ils les déplaçaient de 3 mètres. Et hop là, ils avaient encore une heure pour picoler.
On a toujours des bonnes idées quand il s'agit de boire. Alors des frontières originales, on en découvre d'autres dans votre livre, Bruno Tertrais. Par exemple, un petit bout de terre qui est bien connu des Basques, c'est l'île des Faisans. Alors rappelez-nous où elle se trouve. Alors, et quelle est son histoire.
Oui, c'est sur le fleuve Bidassoa qui est donc la frontière entre la France et l'Espagne. Île des Faisans, île de la Conférence, elle a plusieurs noms. Elle est très célèbre, cette petite île, parce que c'est là qu'a été signé le traité des Pyrénées. Et c'est là que s'est marié Louis XIV. Malheureusement, on ne peut plus la visiter, on peut juste la voir depuis l'autre rive, mais Elle est unique au monde. Pourquoi ? Parce que c'est le seul territoire qui a un statut de condominium. Il y a deux vice-rois. Un vice-roi français, un vice-roi espagnol. Le vice-roi, ce sont des deux côtés, ce sont des officiers supérieurs, des militaires, donc qui, tous les 6 mois, vont alterner. Voilà, aujourd'hui, c'est moi le vice-roi. C'est chic, hein, quand même.
Ouais,
pour
frimer à table, c'est pas mal.
C'est chic, mais ça sert à quelque chose ?
Non, ça sert à rien. C'est un arrangement symbolique. Il faut qu'on ait des traditions, des symboles.
On commence à arriver et tout de suite, paf.
C'est
votre côté breton, quoi.
Ça
ne sert à rien.
Et
l'hôtel Arbez, il est français ou Arbez, je ne sais pas comment on prononce. Il est français ou suisse, celui-là ?
C'est moins connu, effectivement, l'hôtel de l'Arbésie ou l'hôtel Arbez. Il y a eu une erreur de bornage un jour à la frontière franco-suisse. Mm-hmm. Et bref, on ne sait plus trop où passe la frontière. Il y a un petit malin qui dit « Moi, je vais construire un hôtel au milieu. » Et puis, les Français disent qu'il est en France, les Suisses disent qu'il est en Suisse. Du coup, il a décidé de s'ériger en principauté. Il a créé sa petite principauté de l'Arbésie, évidemment. Ça ne représente rien. Hein. Mais lui, c'est un gros malin parce que c'est une belle attraction touristique.
Bon, si ça fait plaisir.
Hein. Bien sûr.
Autre frontière insolite. Là, alors je ne sais pas comment ça se prononce.
Venban. C'est ça ?
Une
Vous alliez me parler de la Venban.
De chemin de fer. Une frontière chemin de fer.
C'est exactement ça. C'est une île. Non, je dis ça parce que sur la carte de l'Atlas des frontières, c'est juste à côté de celle de
l'Arbésie.
Donc je savais que vous alliez en parler.
Vous êtes trop fort.
Ça date du traité de paix avec l'Allemagne en 1919. 1919. Mais il y a une ligne de chemin de fer qui était stratégique pour les Belges, qui en gros, on a décidé que ça restait territoire belge. Donc il y a cette petite ligne de chemin de fer qui passe en Allemagne, qui est toujours territoire belge.
Tiens, on termine avec ça. Est-ce qu'il y a un mouvement pour abolir les frontières? Est-ce qu'il y a des courants politiques qui réclament ça?
Si vous voulez, il y a dans le monde, il y a toujours eu deux types de courants. Il y a ceux qui veulent les ouvrir, voire les abolir. Mm-hmm. C'est à la fois pour des raisons commerciales ou idéalistes, etc. Imagine there is no borders. Mm-hmm. Je me demande s'il n'y a pas cette phrase dans la chanson de Leila. Et puis il y a ceux qui ont besoin, au contraire, de sécurité, de souveraineté. On a toujours eu ces deux mouvements. Aujourd'hui, très clairement, on est dans un monde dans lequel le balancier revient vers ce besoin de borner son territoire, de savoir là c'est chez moi, là c'est pas chez toi, et de pas faire rentrer n'importe qui. Je vous porte pas de jugement, je dis juste que c'est très clairement. Et là, on parlait de Trump, quand il dit, encore une fois, les gens ont besoin de frontières, il exprime, moi je déteste Trump pour tout un tas de raisons évidemment, mais quand il dit ça, il exprime un sentiment très largement partagé dans le monde.
Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu et encore beaucoup de suspense qui sera réglé dans la nuit. D'ailleurs, on vous engage à écouter la nuit américaine qui commence à partir de 23h avec Georges Lang et les correspondants de RTL aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci. Bruno Tertrais, votre Atlas des frontières coécrit avec Delphine Papin et publié aux éditions Les Arènes. Et puis si vous aimez l'histoire de frontières, tiens, et de murs, on vous conseille le film L'Ultima Spiaggia qui raconte l'histoire d'une plage de Trieste en Italie où les hommes et les femmes sont séparés par un mur. Ça sort en France le 23 novembre.
Vous écoutez RTL.